Cinquième chapitre. Noménoé, les Normands en Bretagne, Erispoé, Salomon III, partage de la Bretagne, Gurwan et Pasquiten, Alain III, les Normands envahissent la Bretagne, Alain Barbetorte, Conan le Terre, Geoffroy Ier. De grands malheurs empoisonnèrent les dernières années de Louis le Débonnaire. À la naissance de celui de ses fils, qui fut appelé Charles le Chauve, il dut, pour satisfaire les vœux de sa seconde femme, l'impératrice Judith, procéder à un nouveau partage de ses états afin de doter le plus jeune de ses enfants, et il se vit tour à tour dépossédé, réhabilité, condamné à une pénitence publique et incarcéré par Lothaire, Pépin et Louis. Il mourut enfin de douleur. Noménoé lui garda jusqu'au bout son serment de fidélité. Mais dès qu'il eut fermé les yeux, il prit le titre de roi de Bretagne en donnant à Landbert celui de comte de Nantes. Cette ville repoussa Landbert et celui-ci, pour se venger, attira sur la Bretagne les Normands, les plus terribles entre tous les barbares. Il alla lui-même les trouver sur les côtes de la Neustrie, leur vanta les richesses de la ville de Nantes et s'engagea à leur servir de guide. Alléchés par l'espoir d'un riche butin, les pirates rassemblèrent tous leurs vaisseaux et, sous la conduite du comte, ils abordèrent d'abord au bourg de Bas, d'où ils se dirigèrent ensuite, à la voile et à la rame, vers la malheureuse cité. Ce jour-là, on fêtait dans la ville l'anniversaire de saint Jean-Baptiste. Tout à coup, au milieu de la célébration des saints mystères, d'effroyables cris se font entendre. L'ennemi était maître de la place. L'église des saints Pierre et Paul, où l'évêque officiait, fut en un instant remplie par une troupe de fuyards qui barricadèrent derrière eux les portes de la cathédrale. Mais les Normands, à coups redoublés, s'ouvrirent bientôt un passage. Le carnage fut effroyable. Ceux qu'épargna le glaive furent conduits sur leur vaisseau par les pirates qui y entassèrent pêle-mêle les immenses richesses trouvées dans l'antique basilique. Cette horrible dévastation fut l'ouvrage d'un jour. Le lendemain, les Normands se répandirent dans les campagnes, pillant les églises et les monastères, massacrant impitoyablement ceux que la fuite ne dérobait pas à leur fureur. Au bout de 10 jours, ils montèrent sur leurs navires chargés d'or et d'argent et cinglèrent vers l'île de Noirmoutier pour y faire le partage du butin et des esclaves. Quand ils mirent à la voile pour regagner le Danemark, une tempête les poussa sur les côtes de la Galice, dont les habitants leur enlevèrent 50 vaisseaux. Les autres allèrent saccager les environs de Bordeaux, où la mauvaise saison les força à séjourner pendant plusieurs mois. Landbert rentra à Nantes avec une troupe nombreuse de fidèles, auxquels il distribua une partie du territoire de Mauges, de Tiffauges et d'Herbauges. Pendant ce temps-là, Noménoé fit une invasion dans le pays de Rennes et en conquit la plus grande partie. En 845, Charles le Chauve marcha contre lui avec une armée de Francs et de Saxons. La bataille s'engagea près du monastère de Ballon, sur les bords de la Vilaine. Elle dura 2 jours. La victoire resta aux Bretons et elle assura la royauté de l'Armorique à Noménoé, qui, à partir de ce moment, prit le titre de roi. Un peu plus tard, malgré la cour de Rome, il se fit sacré à Dol, dont le siège métropolitain avait été relevé par lui. Mais avant de mourir, il rentra en grâce avec l'Église. Il succomba au milieu de ses triomphes en 851, atteint d'une maladie violente. La Bretagne perdait en lui un grand capitaine, un grand politique et un grand roi. Erispoé, fils de Noménoé, héritait, bien jeune encore, d'un trône à peine consolidé. Charles le Chauve jugea le moment favorable pour se venger sur ce prince sans expérience des outrages qu'il avait reçus de son père, et il conduisit en Bretagne une armée formidable. Mais le jeune roi des Bretons se montra aussi vaillant et non moins habile que son prédécesseur, et Charles, battu contre son attente, signa avec lui un traité avantageux. L'Armorique put alors goûter le repos. Malheureusement, des dissensions s'élevèrent dans la famille des princes, et le roi de France en profita pour envahir encore une fois la Bretagne. Un cousin d'Erispoé, Salomon, devint le fidèle de Charles le Chauve et reçut de sa munificence un tiers du territoire de la péninsule. Les Normands reparurent sur ces entrefaites, conduits par Godefroy. Ils reprirent et saccagèrent Nantes. Ils venaient de rançonner le comte et l'évêque de cette ville lorsqu'ils furent surpris par Erispoé, qui les rejeta sur leur vaisseau en 855. Ils se répandirent alors sur le royaume de France. L'indomptable courage avec lequel les Bretons luttaient depuis tant d'années contre les attaques incessantes des hommes du Nord fit comprendre au roi Charles tout le prix d'une alliance avec un tel peuple. Il proposa à Erispoé l'union de son fils Louis avec l'unique héritière de Bretagne. La réalisation de ce projet, suivant la judicieuse remarque de M. Aurélien de Courson, eut peut-être avancé de plus de 600 ans le grand événement qui s'accomplit sous Charles VIII à la fin du XIe siècle. Mais Salomon, comte de Rennes, fit échouer par un crime le plan du roi de France. Il dénonça au seigneur breton la trame qui sourdissait contre l'indépendance du pays et complota avec eux le meurtre de son cousin. Un jour qu'Erispoé entendait la messe dans une église du diocèse de Vannes, il fut assailli par une troupe d'hommes armés et massacré au pied même de l'autel par Salomon et l'un de ses complices. À la nouvelle de cet assassinat, Charles le Chauve se dirigea vers l'Armorique. Mais apprenant que les Bretons avaient rassemblé toutes leurs forces, il se décida à traiter avec Salomon, et pendant 2 ans, il n'eut pas l'air de s'apercevoir des ravages commis sur les terres de France par des bandes de mécontents au nombre desquels était son fils Louis. Il fallut cependant prendre un parti, et il se décida à convoquer un concile à Savonnière afin de dissoudre la Ligue des Seigneurs à l'aide des armes spirituelles. Plusieurs des Leudes réfugiés en Bretagne s'empressèrent de solliciter leur pardon, et particulièrement Robert le Fort. Charles entra alors dans l'Armorique et s'avança jusqu'au monastère d'Entrain, près de Laval. Salomon fit sa soumission, mais peu de temps après, les Bretons recommencèrent leurs ravages sur le territoire ennemi. Alliés aux Normands, ils envahirent le Maine. Robert le Fort périt dans un combat qu'il leur livra à Brissart. La perte d'un tel appui laissait l'empire de Charles à la merci des hommes bardés de fer. Le prince se retourna vers Salomon, à qui il accorda de grandes faveurs, et il employa utilement son courage contre l'ennemi commun. Le roi breton rentra comblé d'honneur de son pays, après avoir puissamment contribué à enlever Angers aux Normands. Mais le remords déchirait son cœur. Un fantôme noir le poursuivait tout le jour, un fantôme blanc toute la nuit. C'était l'ombre de sa victime. Ce tourment fit de lui un saint, et il combla de bienfaits les églises et les couvents. Quelque temps après, en 874, un vaste complot dans lequel entrèrent les deux plus puissants personnages de la Bretagne, Pasquiten et Gerwan, comtes de Vannes et de Rennes, enleva le pouvoir à Salomon. Reconnaissant dans cette insurrection la vengeance divine, ce malheureux prince se résigna à son sort. Il se retira au monastère de Saint-Sauveur de Pélan, et sa mort fut un véritable martyr. Les conjurés, dit son biographe, le livrèrent esmain d'une bande de soldats francs qui le lièrent étroitement et le traînèrent dans la nef de l'église, où son propre filleul lui tire les yeux de la tête et les jeta par terre, les foulant à ses pieds. Et lui ayant fait 1000 autres maux, enfin ils lui coupèrent la tête, et ainsi son âme benoîte s'envola au ciel le 25e jour de juin, l'an de grâce 874, le 8e de son règne. Dès que le roi de France apprit le meurtre de Salomon, il voulut reprendre possession de l'Armorique, mais il comprit vite que toute tentative dans ce but serait inutile, et il laissa Pasquiten et Gerwan se la partager avec plusieurs autres petits princes indépendants. Mais l'ambition vint bientôt briser le pacte sanglant qui unissait les comtes de Rennes et de Vannes, et Gerwan fut frappé à mort dans un combat contre son rival. Pasquiten ne lui survécut pas longtemps. Il mourut la même année, assassiné par les Normands, avec qui il avait fait alliance, en 877. Alain et Judicael, l'un des frères de Pasquiten, l'autre petit-fils de Gerwan, succédèrent à ces princes. Héritiers de leur haine, ils vécurent d'abord ennemis. Les succès des Normands les engagèrent à réunir leurs forces contre les pirates. Judicaël se fit tuer en poursuivant les hommes du Nord. Alain arriva à temps pour le venger et remporta sur l'ennemi une victoire si éclatante que la Bretagne enthousiasmée le salua du nom glorieux d'Alain Arbras, Alain le Grand. Il usa noblement de son triomphe et de sa puissance. Laissant ses rivaux en paix, il répara les villes, releva les églises et reprit Coutances sur les Normands. Il mourut en 907, comblé de gloire et de mérite. Les 30 années qui suivirent la mort d'Alain le Grand furent 30 années de malheur pour la Bretagne. Accablé coup sur coup par les invasions normandes, ce malheureux pays fut, pour ainsi dire, bouleversé de fond en comble, jusqu'à ce qu'un digne rejeton de Noménoé, Alain dit Barbe Torte, vint le délivrer de ce fléau. Fils de Mathuédois, comte de Poer, et d'une fille d'Alain le Grand, il avait servi sa famille en Angleterre. Quand il eut 20 ans, il s'élança du fond de son exil, en 937, avec les émigrés bretons, et reprit son comté matrimonial de Vannes. Repoussé ensuite par Guillaume Longue-Épée, fils et successeur de Roland, il retourna en Angleterre. Mais il revint l'année suivante et, à la suite de succès obtenus sur les Normands, les Bretons le reconnurent pour souverain. Il les conduisit de victoire en victoire et entra avec eux dans la ville de Nantes où il ne trouva plus rien debout ni rien d'entier. Le jeune duc mit tous ses soins à rebâtir cette grande et vieille cité et il y fixa sa résidence. Puis, après avoir fait la paix avec les Normands de la Seine, il recouvra presque en totalité les états d'Alain le Grand. Il mourut en 952, après un règne de 23 ans. De nouvelles discordes éclatèrent alors entre divers prétendants au trône, Foulque le Bon, Thibaut le Tricheur, Hoël IV, Conan le Thor et d'autres. Le fils de ce dernier, Geoffroy, se déclara résolument duc de Bretagne et s'allia contre Foulque à Richard de Normandie, dont il épousa la sœur Arvoise. En 996, il périt en 1008, victime d'une révolte des paysans qui avait poussé à bout les exactions des nobles. Une pierre lancée par une vieille femme lui brisa la tête.